Bonsoir, comment allez-vous? Ce soir, je vous propose une petite balade dans Paris. Dimanche dernier, ses fans ont accompagné Johnny jusqu'à la Madeleine, mais n'ont pas pu aller au cimetière. À la place, je vous propose d'aller au square de la Trinité. À la Madeleine, prenons la rue Tronchet et nous voilà devant la gare Saint-Lazare. La gare qu'empruntaient les impressionnistes pour aller peindre à la campagne. Laissons la gare et marchons quelque part rue Saint-Lazare. À gauche, apparaît l'église de la Trinité et son jardin. Là où, il y a plus de 50 ans, quelques mauvais garçons bousculaient les bourgeois, parmi eux un beau gars aux yeux bleus qui ne s'appelait pas encore Johnny. Du square de la Trinité monte la rue de Londres, qui mène à la rue d'Amsterdam, au numéro 77 Manet y avait son atelier. Du square de la Trinité monte la rue Clichy, qui mène à la rue Moncey, où vivait Émile Zola. Du square de la Trinité monte la rue Blanche, où se jette la rue Pigalle. C'est en haut de la rue Pigalle, dans un café appelé La Nouvelle Ève, à côté du cabaret du Rat Mort, que se retrouvaient Zola, Mallarmé, Monet, Fantin-Latour, Baudelaire, Manet. Le soir, peintres et poètes discutaient, buvaient, draguaient, au bistrot ou dans l'atelier de l'un d'eux. Ça ne vous rappelle personne? Du square de la Trinité part enfin la rue de la Chaussée-d'Antin, vous savez, celle où il y avait un petit jardin pour lequel Jacques Dutronc chantait « De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs ». Et où va-t-elle la rue de la Chaussée-d'Antin? Bah, dans le boulevard Haussmann.
Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je voudrais savoir comment était Paris avant les travaux d'Haussmann. Merci de me répondre.
Bonjour Stéphanie, c'est Éric Azan qui a écrit, figure-toi, L'invention de Paris, édité au Seuil, qui va te répondre. Éric Azan, écrivain, éditeur, qui dirige les éditions de La Fabrique.
Bonjour Stéphanie, oui c'est une question intéressante. En réalité, Paris avant Haussmann et Paris après Haussmann, et Paris aujourd'hui, si on s'en tient au centre de la ville, finalement c'était pas extraordinairement différent.
Ah bon?
Haussmann n'a pas rasé Paris. Il ne s'est pas passé quelque chose de comparable à ce qui s'est passé, par exemple, à Londres, qui a été détruit totalement par un incendie au XVIIe siècle. En dehors d'un endroit, l'île de la Cité, là, Haussmann a été extrêmement ravageur.
Notre-Dame.
Il a gardé Notre-Dame, il a gardé la Sainte-Chapelle, il a gardé un bout du palais de justice, et puis c'est tout, le reste est passé à la trappe. L'île de la Cité, c'était le Paris du Moyen-Âge, c'était des petites rues tortueuses, des cafés louches, des pauvres, des criminels. Et ça, Haussmann avait horreur de ça. Donc il a passé la cité au rabot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cet énorme vide devant Notre-Dame, alors que le Paris médiéval allait jusqu'à la porte de la cathédrale.
En fait, Haussmann, il n'a pas voulu se débarrasser des pierres, il a voulu se débarrasser des gens.
Surtout, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qu'il a fait, ce sont des percées dans la ville, c'est-à-dire des trouées, des grandes avenues, toutes droites. Par exemple, le boulevard de Sébastopol, boulevard de Strasbourg, qui est entre la gare de l'Est et la cité, ou entre la cité et la gare de l'Est, si on va dans le sens des voitures. Mais de part et d'autre, tout près, à 50 mètres, il y a la rue Saint-Denis à gauche, la rue Saint-Martin à droite,
qui existaient déjà,
et qui n'ont pas beaucoup bougé depuis le Moyen-Âge.
Montmartre et toutes les maisons en haut de Montmartre, c'est pas Haussmann, c'est la commune, ça, qui les a dégagées.
La commune n'a pas dégagé grand-chose. La commune a brûlé au centre parisien. Mais d'abord, Montmartre a été très peu démoli. Hein. En dehors du Sacré-Cœur, qui était une espèce d'offense au bon goût et à la commune, il n'y a pas eu véritablement de démolition à Montmartre. Montmartre est encore en grande partie comme c'était autrefois.
Ça me fait rêver, c'est un broglio de maisons, de ruelles, de recoins qui devait sentir l'humidité, le vieux pipi, tout ça.
Oui.
Sûrement. Coupe-gorge, ça vous l'avez dit. Ils sont allés où, les gens, les habitants de ce quartier, quand Haussmann a décidé de démolir? Parce qu'il a voulu se débarrasser de la racaille, mais qui, du coup, est allé où?
Elle a dû bouger, comme d'habitude, un peu plus vers la périphérie. Hein, comme aujourd'hui, quand on chasse les pauvres des arrondissements périphériques, ils vont en banlieue. Et en particulier, ils sont allés peupler les communes qui ont été annexées à Paris en 1860, justement Montmartre, Belleville, Ménilmontant, qui étaient des communes indépendantes et qui ont été annexées et peuplées à ce moment-là de gens que Haussmann avait chassés du centre.
Éric Azan a beaucoup écrit sur Paris. Chaque livre est une merveille. C'est vrai que devant Notre-Dame, c'est beau, mais c'est nu et froid. Il a raison. On pense évidemment au Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui d'ailleurs est un contemporain d'Haussmann. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions, je vais vous donner le numéro tout à l'heure, et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Je m'appelle Basile, j'ai 8 ans, et je voudrais savoir pourquoi les aveugles portent Basile des lunettes. Merci de me répondre. Au revoir.
Merci Basile pour ta question que nous proposons au professeur Jean-Claude H, qui est médecin neuro-ophtalmologiste.
Eh bien Basile, il y a toutes sortes d'aveugles. Il y a des aveugles complets, c'est-à-dire des gens qui sont dans le noir absolu et qui, eux, n'ont pas besoin de lunettes. Mais c'est une proportion très peu importante des aveugles. Beaucoup de gens sont en fait ce qu'on appelle des aveugles légaux, c'est-à-dire qu'ils ont une baisse de vision qui leur rend impossible les actes de la vie quotidienne. Alors il y a des gens qui ont perdu la vision au centre, l'acuité visuelle, et dont la vision est en dessous de 1 sur 20, c'est-à-dire que même les grandes lettres sur le tableau de lecture, ils n'arrivent plus à les voir. Puis ils n'arrivent plus à lire. Donc c'est la perte de la vision centrale. Puis il y a des aveugles qui ont perdu la vision périphérique, c'est-à-dire le champ de vision, et qui quand ils se déplacent, ils se tapent dans les portes. Mais ils arrivent encore à voir au centre et à reconnaître les lettres ou les chiffres. Alors, ces aveugles-là, ils sont par la loi reconnus comme étant des aveugles. Il faut protéger leurs yeux, parce que cette cécité, le fait de devenir aveugle, est lié à une maladie souvent évolutive. Ah. Exemple, la rétinite pigmentaire ou rétinopathie pigmentaire, qui est une maladie pour laquelle on donne des sous lors du téléthon, parce que c'est une maladie héréditaire. Et cette maladie, elle altère la vision tout doucement au cours de la vie. Et il faut protéger les yeux des gens en faisant porter des verres teintés. Et de préférence teintés marron. Donc, il y a des affections, des tas de maladies qui sont responsables de cécité progressive et pour lesquelles il est intéressant que les aveugles se protègent pour garder le peu de vision qui leur reste avec des verres.
Est-ce que, professeur H, la lumière leur fait mal physiquement ?
Alors, il y a des maladies où la lumière fait mal, mais c'est assez rare. Il faut que les lumières soient très intenses. Mais la lumière abîme leur rétine. Donc, quand on va sur la plage ou quand on va sur la neige, même les gens normaux doivent porter des lunettes de soleil pour protéger notamment des ultraviolets.
Est-ce que les atteintes, si on n'est pas aveugle de la lumière, elles sont irréversibles ?
Alors, il y a deux sortes de problèmes. Le premier, c'est vous allez sur la neige sans lunettes de soleil. Ouais. Vous allez faire ce qu'on appelle une ophtalmie des neiges. C'est la même chose que les soudeurs qui soudent sans lunettes. C'est en fait les ultraviolets qui sont dans la lumière qui vont brûler la surface de la cornée. Et ça fait horriblement mal, mais ça ne dure qu'une nuit. Ah. Après, ça récupère. Et puis, il y a les lésions à long terme. Quand on a eu beaucoup de lumière pendant longtemps. Et ça peut donner des maladies dont on parle à la télévision. C'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Vous savez, les personnes âgées qui ne voient plus au centre et qui, en quelque sorte, deviennent aveugles. Et donc, pour empêcher ça, il y a intérêt à porter des verres teintés dès lors que la lumière est un peu forte.
Nous sommes un peu prompts, parfois, à juger les gens qui portent des lunettes de soleil. Ce n'est pas forcément pour faire genre, comme on dit bêtement.
Votre chance au banco.
C'était Juliette Armanet, cavalier seul avec un nœud. C'est vrai, après tout, l'expression c'est « tu fais cavalier seul », un peu tu la joues perso. Elle n'existe pas l'expression « tu fais cavalière seule », ben, peut-être parce que les femmes ne la jouent pas perso.
Les petits bateaux sur France Inter.
À propos de cavalier, combien de chevaux a votre voiture? Oula, c'est beaucoup, est-ce bien utile?
Bonjour, je m'appelle Elias, j'ai 10 ans. Et je voudrais savoir pourquoi la vitesse est limitée sur les autoroutes en France, mais pas en Allemagne. Merci de me répondre.
Bonsoir Elias. Jacques Nouvier, président du groupe de l'OCDE sur la gestion de la vitesse.
Alors c'est une excellente question et qui est souvent abordée, je dois dire, de manière un petit peu trop simpliste. Tout d'abord, quelques mots sur les statistiques routières. En 2012, le nombre de tués en Allemagne était 3600, 3653 en France, donc c'est pareil. En revanche, sur les autoroutes, on avait 387 tués sur les autoroutes allemandes et seulement 242 sur les autoroutes françaises. Alors si on regardait trop rapidement, on dirait qu'il y a 60% de tués de plus sur les autoroutes en Allemagne qu'en France. Ça devrait être une question de vitesse. Bon, c'est sans doute un élément, mais c'est pas le seul. Et il y en a d'autres qui vont dans l'autre sens. D'une part, la part de trafic écoulée par les autoroutes en Allemagne est plus forte qu'en France. Tout simplement parce que le réseau routier allemand est pas très commode, si vous voulez, pour les liaisons longue distance.
Donc ils prennent beaucoup l'autoroute.
Ils prennent beaucoup l'autoroute, puis elle est gratuite, hein, n'oubliez pas.
Ah oui.
Et oui. Et puis, deuxièmement, l'Allemagne est un pays plus peuplé que la France, hein, 81 millions, donc ça joue. J'essaye de vous décortiquer un peu les choses. D'abord, à quoi ça sert de limiter la vitesse? J'ai pas le temps de détailler ici, mais il existe une loi expérimentale que les spécialistes appellent la loi de Nielsen. Et cette loi, elle dit que quand on augmente la vitesse moyenne de N% sur une route, eh bien, le nombre de morts, il va augmenter lui aussi, non pas de N%, mais de 4N%. Quatre fois plus. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si la vitesse moyenne sur une route ou une autoroute diminue de 10%, eh ben le nombre de morts, il va diminuer de 40%. Alors cette loi, elle s'applique absolument partout, et aussi bien sûr en Allemagne. Alors pourquoi les Allemands ne limitent-ils pas la vitesse sur leurs autoroutes? Ben la réponse, elle est très simple. Parce que les Allemands, ils fabriquent des grosses voitures, puissantes et rapides, et parce que le lobby automobile en Allemagne est très puissant. Mais bon, il faut quand même aller plus loin. C'est pas tout à fait juste de dire que les vitesses sont libres en Allemagne. Les Allemands ont une bonne partie de leur réseau, le tiers environ, qui est limité, soit pour des raisons permanentes, par exemple pour des raisons de bruit, soit pour des raisons temporaires, par exemple si on a des chantiers. Alors, je dois dire quand même très franchement que les Allemands se refusent absolument à donner la moindre indication sur les taux d'accidents, sur les sections où il y a des vitesses limitées et sur les autres. Ce qui laisse quand même penser qu'il y a...
C'est pas net.
C'est pas net.
Qui ne dit mot consent ou qui ne dit mot ment? Quoi qu'il en soit, restons dans la vitesse.
Bonjour, je m'appelle Armand, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir quel véhicule va le plus vite au monde. Merci.
Quel véhicule va le plus vite au monde, Armand? Nous avons proposé ta question à Justine Tommy, qui est juge officielle française au Guinness World des Records. Alors c'est vraiment dans ce livre qu'on trouve tout ce qui va le plus vite, le plus haut, le plus loin. Enfin, il y a des choses tout à fait extraordinaires.
Oui, bonjour Armand, merci pour ta question. C'est en effet très intéressant. Alors nous, ce qu'on a enregistré au Guinness World Records, c'est la vitesse la plus rapide au monde à laquelle les humains ont jamais voyagé.
Ah.
Donc ça peut être n'importe où. Et en l'occurrence, il se trouve que cette vitesse a été atteinte dans l'espace. Et donc cette vitesse a été atteinte grâce à une fusée, qui était donc Apollo 10, et c'était une vitesse de 39 897 km/h.
Quasiment 40 000, quoi.
Quasiment 40 000 km/h. Et cette vitesse a été atteinte dans l'espace. C'était la fusée Apollo 10 qui revenait sur Terre, et elle a été atteinte au 121e kilomètre à son retour le 26 mai 1969. Et à bord de cette fusée était donc le commandant Thomas Patton Stafford et le commandant Eugene Andrew Cernan, qui étaient des Américains et qui ont donc réalisé ce record.
Et Justine Tommy, est-ce que vous le savez sur Terre?
Alors sur Terre, oui, donc il y a un record qui a aussi été atteint à bord d'un véhicule qui s'appelait le Thrust SSC. Et le record était de 1227 km/h par le Britannique Andy Green dans le désert du Nevada le 15 octobre 1997.
C'était quoi ce véhicule?
C'était un véhicule qui avait une forme de fusée. C'est un véhicule qui s'appelle le Bloodhound et c'est un véhicule qui a quatre roues, mais le nez est en forme de fusée pour que ce soit un véhicule très très rapide.
Aérodynamique.
Voilà, exactement.
Et alors à pied, Hein, qui est le plus rapide sur cette terre? Alors, dans le Guinness World 2018, je vois que c'est Usain Bolt, toujours, qui fait du 37 km/h avec des pointes à 44 km/h. Et chez les animaux, le guépard, qui fait, accrochez-vous, du 104 km/h. Oui, bon, enfin, il a deux fois plus de pattes que nous aussi. Hein.
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 9 ans. Je voudrais savoir pourquoi Internet s'appelle Internet. Merci, au revoir.
Bonjour Marie, nous avons proposé ta question à Jérémy Zimmermann, qui est cofondateur de l'organisation citoyenne La Quadrature du Net, justement. Pouvez-vous lui répondre?
Bien sûr. Bonjour Marie. Internet s'appelle Internet. Net, c'est le raccourci de network en anglais, qui veut dire réseau. Et donc Internet, c'est une interconnexion de réseau. Internet, c'est l'ensemble de règles de base qui permettent à des ordinateurs sur différents réseaux de communiquer entre eux. Et par cette interconnexion de réseau, on appelait ça dans le temps le réseau des réseaux, par cette interconnexion de réseau, on arrive à interconnecter de façon universelle, quasi universelle, potentiellement tout le monde sur la planète. Et c'est ça, la force d'Internet, c'est ça qui apporte tous ces bénéfices sociaux, culturels, économiques, politiques. C'est cette universalité du réseau Internet. Que vous soyez en Ouganda, au Canada, en Autriche ou n'importe où, vous allez toujours avoir accès au même Internet, vous allez toujours pouvoir participer de la même façon. Cette universalité du réseau, c'est ce qu'on appelle aussi la neutralité du net, qui est menacée aujourd'hui que des opérateurs ou des gouvernements tentent de restreindre nos communications sur Internet. Mais Internet, c'est ça, c'est l'interconnexion de réseaux à l'échelle universelle et qui permet cette universalité d'accès et cette universalité de participation que l'on aime tant.
Merci Jérémy Zimmermann. Il y a des enfants qui ne réalisent même pas qu'un jour sur ce monde, il n'y avait pas d'Internet. Alors il y a un jeu rigolo sur Internet justement qui s'appelle « Jeu 50 ans petit Robert ». Vous trouverez deux mots nouveaux qui sont entrés dans le petit Robert, votre année de naissance. Par exemple, pour ceux qui sont nés en 1954, est entré dans le petit Robert Blue Jean et Pizzeria. Ceux qui sont nés en 57, Scoop et Spoutnik. Ceux qui sont nés en 81, Tag et Meuf. Ceux qui sont nés en 94, Coming Out et Email.
If you feel that it's real, I'm on trial. And I'm here again, your prison. Like a coin in your mint, I am dented and I'm spent with hot treason. Through a glass eye, your throne is the one danger zone. Take me to the pilot for control. Take me to the pilot of your soul. Na 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 na
C'était Elton John sur France Inter où vous écoutez Les Petits Bateaux. Pour nous poser une question, vous faites le 01 56 40 43 57. Nous connaissons bien Hervé Tisse au Petit Bateau. Hervé Tisse est physico-chimiste à l'INRA, membre de l'Académie d'agriculture et il dirige l'équipe INRA de gastronomie moléculaire.
Allô, je m'appelle Alice et je voulais savoir comment on fabrique la fondue. Et j'ai 5 ans.
Alice, c'est de la graine d'Hervé Tisse à 5 ans.
Ben alors la fondue, c'est comme la mayonnaise, en vrai.
Ah
oui.
Bon ?
Ben oui, parce que dans la mayonnaise, on met de l'huile dans un jaune d'œuf. Oui. Bon, le jaune d'œuf, c'est de l'eau à 50%. Et puis, il y a des trucs qui vont faire que l'huile va pouvoir, si elle est fouettée, c'est-à-dire divisée en petites gouttelettes, eh ben, le jaune d'œuf, il contient des choses qui vont enrober les gouttelettes et qui vont empêcher qu'elles se fusionnent. Et donc, on obtient une émulsion. Bon, la mayonnaise, c'est une émulsion froide. La fondue, c'est une émulsion chaude. C'est-à-dire que le fromage, c'est du gras. Il y a beaucoup de gras. Et donc, une fondue, on prend du vin blanc, souvent, hein, même pour les enfants, parce que l'alcool va s'évaporer, donc c'est pas grave. Et puis, on y met du fromage. Ce fromage va fondre, mais du coup, eh ben, ça va libérer les gouttelettes. Et les gouttelettes, elles vont se retrouver dans l'eau du vin blanc, puisque le vin blanc, c'est presque que de l'eau. Hein. Et du coup, comme il y a des protéines dans le fromage, elles vont enrober les gouttelettes et vont faire une émulsion. Alors, voilà pourquoi il faut bien choisir son vin blanc, son fromage, parce qu'il faut bien que cette émulsion se fasse. Il faudrait pas qu'il y ait des morceaux agglomérés avec des tas de protéines qui fassent des fils compliqués. Enfin, donc c'est le même procédé. Et voilà pourquoi, par exemple, il y a un village à Bulle, en Suisse, qui est célèbre, parce que le patron dit qu'il met 700 coups de fourchette sur sa fondue, c'est-à-dire qu'il disperse bien son émulsion, en quelque sorte.
C'est la mère Poulard.
Voilà, Suisse, mais oui. Je l'ai fait à la maison en comptant le nombre de coups de fourchette. Ça a l'air impressionnant, mais quand on fait la fondue, on fait bien 700 coups de fourchette, donc c'est un peu du baratin.
Donc quand vous dites, Hervé Tisse, il faut bien choisir son vin blanc et il faut bien choisir son fromage, quelles sont les règles qui président
ce
choix?
Ah, c'est compliqué. Il faut un vin jeune, un vin un peu acide et jeune, et il faut un fromage qui soit plutôt vieux. Enfin, si on s'y prend bien, on peut tout faire. Mais c'est vrai qu'un fromage vieux, il sera passé des choses sur les protéines du fromage qui vont pas faire les fils ennuyeux qu'on aurait. Et le vin blanc, il faut de l'acidité pour des raisons un peu compliquées, mais qui tiennent au fait que... Comment vous dire? Je vais vous répondre avec une expérience. Mettez un œuf entier dans sa coquille dans un verre de vinaigre.
Vous allez voir. Vous
allez voir qu'au début, la coquille est dissoute par le vinaigre, donc il y aura une petite effervescence. Ça n'a rien à voir avec notre fondue. Mais vous allez voir aussi que, au bout d'un moment, vous avez l'œuf sans sa coquille. N'y touchez pas et laissez-le. Et au bout d'un mois, ça sera coagulé parce que les protéines en milieu acide, elles coagulent. Et donc, ce que vous allez voir, c'est une espèce d'œuf que j'ai appelé les œufs d'anti-sentant. Et ça, c'est le contraire de ce qu'on veut faire dans la fondue, on est bien d'accord. Mais vous voyez que l'acidité peut avoir un effet sur les protéines.
Il doit y en avoir un bazar dans la cuisine d'Hervé Tisse, entre les œufs qui trempent et autres expériences. Vous pouvez lire, parce que c'est vraiment amusant, un des livres d'Hervé Tisse, édité chez Belin, « Mon histoire de cuisine ». Les petits bateaux sont terminés pour ce soir. Nous reviendrons dimanche prochain. Dimanche prochain, ce sera le 24 décembre. Merci à Guillaume Roux pour sa prise de son, à Marjorie Devoucoux pour sa réalisation, à Noël Bréham pour son animation. Oui, vous savez ce que je pense, que si on ne se remercie pas soi-même, personne ne le fera. Vous pouvez aller sur notre site internet pour trouver des choses passionnantes sur nos invités, pour réécouter les réponses et puis pour réécouter l'émission tout simplement.